liturgie de la parole de ce mardi 23 septembre 2025, mardi de la 25e semaine du temps ordinaire, année impaire. Bénis ton peuple, Seigneur, et donne-lui la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Première lecture. Ils achevèrent la construction de la maison des dieux et les rapatriés célébrèrent la Pâque. Lecture du livre d'Esdras au chapitre 6, versets 7 à 20, texte entrecoupé. En ce jour-là, le roi des Perses, Darius, écrivit aux autorités de la province située à l'ouest de l'Euphrate. Laissez le gouverneur des Judas et les anciens des Juifs travailler à cette maison des dieux. Ils doivent la rebâtir sur son emplacement. Voici mes ordres concernant votre ligne de conduite envers les anciens des Juifs pour la reconstruction de cette maison des dieux. Les dépenses de ces gens leur seront remboursées exactement et sans interruption sur le fonds royal, c'est-à-dire sur l'impôt de la province. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre. Qu'il soit strictement exécuté. Les anciens des Juifs continuèrent avec succès les travaux de construction, encouragés par la parole des prophètes Haggée et Zacharie, le fils d'Iddo. Ils achevèrent la construction conformément à l'ordre du roi d'Israël, selon les décrets de Cyrus et de Darius. La maison des dieux fut achevée le troisième jour du mois nommé Adar, dans la sixième année du règne de Darius. Les fils d'Israël, les prêtres, les lévites et le reste des rapatriés célébrèrent dans la joie la dédicace de cette maison des dieux. Ils immolèrent pour cette dédicace 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et en sacrifice pour le péché de tout Israël 12 boucs d'après le nombre des tribus d'Israël. Puis ils installèrent les prêtres selon leur classe et les lévites selon leur groupe pour le service des dieux à Jérusalem, suivant les prescriptions du livre de Moïse. Les rapatriés célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. Tous les prêtres et tous les lévites, sans exception, s'étaient purifiés. Tous étaient purs. Ils immolèrent donc la Pâque pour tous les rapatriés, pour leurs frères, les prêtres et pour eux-mêmes. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
Au 8e chapitre du 19e au 21e verset. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver. Mais il ne pouvait pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. » Il leur répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Acclamons la parole de Dieu. »
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers auditeurs, chers internautes, aujourd'hui, dans l'Église, il nous est proposé la célébration de la mémoire provisoire de Saint Pio de Pietrelcina, communément appelé Padre Pio, un capucin, prêtre, mystique de notre temps. Né en 1887, il est décédé en 1968, le 23 septembre, à l'âge de 81 ans. Saint Pio avait des dons particuliers, des stigmates. C'est l'une des caractéristiques de Saint Pio. Il a souffert, il avait des stigmates sur lui. Il en a beaucoup souffert. Et il a pris sa vie comme un long chemin de croix. Il disait lui-même que parfois, il passait son temps à prier simplement le chapelet. Parce que les stigmates lui faisaient mal, il souffrait terriblement. Et devant cette souffrance, il priait le chapelet. Il disait qu'il pouvait arriver par jour à prier même 3000 Ave Maria. Ça, c'est un exemple qu'il nous donne, souffrir en priant. Vous qui nous suivez dans des hôpitaux, dans des prisons, vous qui passez des moments difficiles, voilà un exemple à suivre, Padre Pio, qui a souffert. Imaginez des blessures qui font mal sur les paumes des mains, des stigmates. Et ça l'a accompagné pendant plusieurs années. Mais il offrait ça au Seigneur dans la prière. Il priait. Vous aussi, dans des moments difficiles, prenez le chapelet. Comme faisait Padre Pio. Il dit qu'il arrivait parfois à prier par jour, même 3000 Ave Maria. Parce que il voulait offrir sa souffrance au Seigneur pour souffrir avec Dieu, avec Jésus crucifié, de façon qu'avec lui, il soit aussi victorieux. Dans les textes bibliques que l'Église nous propose aujourd'hui, Esdras 6, de 7 à 8, puis 12b, et de 14 à 20, sans oublier l'Évangile selon saint Luc que nous venons de proclamer, Luc 8, de 19 à 21, et il n'y a qu'une seule chose qu'on peut retenir. Nous sommes appelés à construire l'Église, à bâtir l'Église. Dans la première lecture, c'est l'Église comme édifice matériel, et dans l'Évangile, c'est l'Église comme cette mère, cette réalité spirituelle dont nous sommes tous membres, comme institution dont nous sommes tous membres. Ça apparaît notamment dans l'Évangile d'aujourd'hui. D'abord, l'Église comme édifice matériel. Première lecture du livre d'Esdras, 6e chapitre, de 7 à 20 textes entrecoupés. Il faut des moyens. Et cette fois-là, c'est le roi des Perses Darius qui a succédé à Cyrus. C'est lui qui va mettre des moyens. Il faut des moyens pour construire l'Église. De gros moyens, parce que une Église comme édifice ne peut pas se présenter de n'importe quelle manière. Ça doit être beau. Et ça, c'est dans la tradition biblique. Le temple de Salomon était très beau. Après l'exil, le temple sera un peu modeste, mais il a fallu de gros moyens que Darius a mis à la disposition du peuple juif. Il a demandé au gouverneur de décaisser des fonds pour construire le temple de Jérusalem. Parce que la maison du Seigneur doit se présenter de façon exceptionnelle. Ça doit attirer, ça doit être beau. Il y a des prophètes qui accompagnent ce travail de reconstruction du temple. Agé et Zacharie, ils doivent exhorter les gens à prier, exhorter les gens à donner des moyens pour soutenir l'œuvre du temple. Ça, c'est depuis longtemps. On a toujours besoin des moyens. Il faut soutenir l'Église. Il y a des paroisses où on reconstruit, on essaye d'agrandir l'Église, de moderniser la cure, de moderniser l'Église. Voilà, la première lecture nous invite à tout ça. Il faut des gros moyens pour que ça se présente très bien. Ça doit être des beaux édifices, nos églises. Ils vont faire ce travail et puis ça finira. Ça finira, c'est le temple le plus modeste dans l'histoire du peuple juif, parce qu'après il y aura le temple d'Hérode le Grand, qui sera très très beau, magnifique, même à l'époque de Jésus. Ça attirait les gens, Jésus lui-même le dit. Les disciples passant devant le temple admiraient la beauté du temple, qui faisait la fierté du peuple juif, du peuple croyant. Nous sommes appelés nous aussi, comme les fils d'Israël qui sont revenus de l'exil, nous sommes appelés à contribuer. Chacun doit apporter sa part pour que nos églises soient belles. Là, il faut construire, qu'on construise. Là, il faut réfectionner, qu'on réfectionne. Et là où il faut orner, il faut moderniser, qu'on le fasse, mais il faut des moyens. Et les moyens viennent justement des fidèles et pourquoi pas de l'État, parce que le temple, après l'exil, s'est construit avec les fonds de l'Empire. Et Darius ordonne au gouverneur de décaisser les fonds pour reconstruire le temple de Jérusalem. Et derrière tout ça, on voit que Dieu est grand. Parce que le peuple est un peu déçu. Quand on a pillé le temple, quand on l'a détruit, on s'est dit, mais c'est pas possible. Comment Nabucodonosor peut se permettre avec son armée de marcher sur Jérusalem, de détruire le temple, et puis ils ne sont pas punis par Dieu? Est-ce que Dieu est-il puissant? Mais Dieu a sa logique. Dieu a voulu que ça soit ainsi. Mais après, vous verrez que c'est Dieu, en fait, qui dirige tout. Même les rois païens sont dirigés par Dieu. C'est ainsi que plus tard, certains prophètes vont interpréter la chute de Jérusalem comme le châtiment voulu par Dieu Et Nabucodonosor, c'est l'instrument dont Dieu s'est servi pour punir son peuple. Mais après Nabucodonosor, il y a Cyrus, il y a Darius qui viennent. Et c'est le même Dieu, puisqu'il est tout-puissant. Il n'est pas seulement le Dieu des Juifs, le Dieu de tout le monde. Il va inspirer à Cyrus et à Darius l'idée de libérer le peuple juif et surtout de l'aider, d'aider le peuple juif à reconstruire le temple. C'est le même Dieu qui châtie, le même Dieu qui relève. Et ça, c'est notre vie aussi. Donc Dieu est capable de tout. Parfois, à cause de votre comportement, vous êtes là où vous êtes, parce que vous vous êtes méconduit. Vous avez récolté ce que vous avez semé, mais Dieu ne vous a pas abandonné. Parce que le peuple s'était aussi méconduit devant Dieu. Voilà pourquoi l'exil est arrivé, la déportation est arrivée. Mais après, Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu ne peut pas vous abandonner. Eh bien, repentez-vous, le Seigneur peut vous relever. Le relèvement est toujours possible avec Dieu et en Dieu. Notre Dieu n'est pas rancunier. Il oublie, quand on demande pardon, on prend l'option pour la conversion, il pardonne, il vous relève. Là, il est en train de relever son peuple. Le peuple qui était honni, couvert de honte, le peuple qui était ridiculisé, humilié par les Babyloniens, voilà. Maintenant, c'est une autre époque. C'est les mêmes rois, les rois qui sont situés en Babylonie, Mésopotamie, ce sont eux qui, contrairement aux Babyloniens, ce sont eux qui vont soutenir le peuple juif. Donc voilà comment Dieu relève. Dieu peut vous relever. Dans l'Évangile, comme je disais, c'est encore l'Église. L'Église comme institution. Jésus est dans une maison. Il est en train de prêcher. Et cette maison préfigure déjà l'Église, en fait, comme institution. Et Jésus est à la tête. Marie est le frère de Jésus, le cousin. On parle de frère de Jésus. On dit « ta mère et tes frères ». La mère et les frères de Jésus. On ne parle pas des enfants de Marie. Et que ça soit clair. Parce que chez les Juifs, chez les Sémites, on exprime la fraternité utérine, même mère, en disant « les enfants de sa mère ». Je dois préciser, si ce n'est pas un cousin, je dois dire « voilà mon frère, le fils de ma mère ». Si je dis seulement « mon frère », c'est un cousin. Si c'est ma sœur, utérine, même mère, je dois dire « voilà ma sœur, fille de ma mère ». Si je dis « voilà seulement ma sœur », je m'arrête là, c'est que c'est une cousine. Et si on parle de frère de Jésus, sans dire les fils de sa mère, et donc ce ne sont pas les enfants de la Vierge Marie. Marie n'a pas eu d'autres enfants à part Jésus. C'est un argument d'ordre philologique, mais aussi des arguments d'ordre théologique, d'ordre culturel, qu'on peut aussi avancer. Chers auditeurs, chers internautes, cet évangile nous rappelle trois choses. D'abord, Marie est très humble. Elle respecte le ministère de son fils. Quand elle arrive, elle se met dehors. Elle ne veut pas bousculer le protocole. Que feriez-vous aujourd'hui? Vous êtes frère du ministre, frère du DG, frère de quelqu'un, ou bien sœur, ou bien mère, ou qui? Vous allez bousculer le protocole. Dis-lui que c'est moi. Parce que vous avez une relation biologique avec la personne, avec le chef. Vous voulez bousculer le protocole. Marie, non. L'humilité de Marie. Voilà pourquoi Dieu l'avait choisie. Dieu a jeté son regard sur l'humilité ou l'abaissement de sa servante. Marie est restée égale à elle-même. Avant et après la naissance de Jésus, elle est restée égale à elle-même. Une femme humble, modeste. Elle est dehors, elle ne bouscule pas l'humilité de Marie. Elle respecte le ministère de son fils. Apprenez-vous aussi à respecter le travail de vos frères, de vos sœurs. Ça peut être, ils sont prêtres dans une paroisse, curé, vicaire, ou bien ils sont dans des entreprises publiques, ils sont en politique des chefs. Il faut respecter leur travail. Il ne faudrait pas que vous soyez cause de leur contre-performance dans le travail. Et Marie est comme cela. Elle respecte. Elle est dehors. L'humilité de Marie. La deuxième chose à retenir de cet évangile, c'est la responsabilité de la Vierge Marie. Elle va quand même trouver son fils. Il y a l'équilibre. L'humilité ne veut pas dire reculer. devant des situations où vous devez prendre votre responsabilité. Marie va quand même trouver son fils. Certainement, il y a eu des bruits, des rumeurs selon lesquelles ça ne va pas. Bon, certains disent même que probablement il a perdu la tête et ça fait mal à Marie. Voilà la démarche de Marie. C'est la démarche d'une maman responsable. Combien de parents ont abandonné leurs enfants à leur triste sort? Marie n'est pas de ces mamans-là. Son fils est déjà adulte, mais elle est responsable. Elle prend ses responsabilités. Elle veut voir son fils. Qu'est-ce qui se passe? La responsabilité, mais en même temps aussi l'humilité. Je vais rencontrer mon fils, mais tout en le respectant, tout en respectant son travail. La réponse de Jésus, c'est la troisième chose à retenir de cet évangile. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Chers auditeurs, chers internautes, Jésus n'a pas déshonoré sa maman. C'est impossible. Parce que Jésus n'a jamais commis de péché. Si vous dites que là, Jésus a déshonoré sa maman, c'est que Jésus a commis un péché. Contrairement au décalogue qui dit « Honore ton père et ta mère », lui a déshonoré. Et ces péchés-là, c'est extrêmement grave. C'est vraiment grave. Donc, il ne faudrait pas interpréter les propos de Jésus de travers. Jésus n'a pas déshonoré sa mère. Jésus veut tout simplement rappeler que l'Église est constituée de ceux qui font la volonté de Dieu, qui écoutent la parole de Dieu. Et nos relations ont changé. Ce ne sont plus des relations biologiques qui priment, mais des relations spirituelles. En Afrique, les pères évêques, depuis l'autre synode sur l'Afrique du siècle passé, ont défini l'Église comme Église famille de Dieu. Église famille de Dieu. Nous avons des relations spirituelles entre nous. Nous, peuple croyant, nous, de l'Église catholique, nous avons des relations. Église famille de Dieu, des relations spirituelles. C'est ça ce que Jésus nous rappelle. Et Marie n'est pas exclue. Parce que la première personne qui a écouté la parole de Dieu, qui l'a accueilli et qui s'est dit disposé à la mettre en pratique dans l'évangile de Luc, c'est la Vierge Marie. Luc 1, 38, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » En fait, ce que Jésus dit dans cet évangile confirme une qualité de Marie qui est celle qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Et Luc insiste beaucoup là-dessus. Si vous lisez l'évangile de Luc attentivement, vous verrez que en fait, Jésus veut nous dire en disant « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Il voulait tout simplement nous dire que Marie est ma mère, non seulement biologiquement, mais aussi parce qu'elle met en pratique, elle écoute et médite la parole de Dieu et la met en pratique. Vous lisez Luc 1, 38. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Vous lisez Luc 2, 19. Marie méditait ces choses et les gardait dans son cœur. Qu'est-ce qu'il méditait? Il méditait les mystères de Noël. Il méditait comment la parole de Dieu est en train de s'actualiser. Luc 2,51, Marie méditait ces choses et les gardait dans son cœur. Donc, à trois reprises, Luc nous présente Marie comme celle-là qui écoute la parole de Dieu, la médite et la met en pratique. Luc 1,38, Luc 2, 19, Luc 2, 51. Donc finalement, ce que Jésus dit ici ne peut pas être perçu comme une façon de déshonorer Marie, mais c'est plutôt une façon de nous dire que nous devons vénérer Marie à double titre. D'abord, parce qu'elle est mère biologique de Jésus, mais aussi parce qu'elle est modèle des disciples pour nous. Elle est la première, dans l'évangile de Luc, à avoir accueilli la parole de Dieu à travers l'archange Gabriel. Elle est la première qui s'est dit disposée à mettre en pratique cette parole. Luc 1, 38, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.